6h45 sur France Culture. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, les élections présidentielles en Tunisie vont-elles consolider la démocratie?
Oui, présidentielle avec un peu d'avance sur le calendrier électoral puisque la mort le 25 juillet dernier du président Bejikaïd Essebsi a quelque peu bouleversé les choses. La présidentielle aura lieu avant les législatives et non après comme prévu. C'est la première élection présidentielle depuis qu'est entrée en vigueur la nouvelle constitution tunisienne, la deuxième depuis le printemps arabe dont elle a été la Tunisie pionnière et qui est la seule parmi les pays où avait soufflé ce vent nouveau en 2011, la seule qui ait gardé le cap. En Syrie, au Yémen, en Libye, les expériences révolutionnaires se sont soldées par la guerre civile. L'Égypte a été reprise en main par l'armée. La Tunisie reste donc une exception. Et nous sommes en ligne depuis Tunis où il est 1h de moins, 5h46. Tunis s'éveille. Bonjour Madi Elouch.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste politique, membre de l'Observatoire tunisien de la transition démocratique. Vous êtes aussi expert de la Fondation Jean Jaurès. Alors, au cours de la campagne qui s'achève pour cette présidentielle dimanche, est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez lu, Madi Elouch, ici ou là, chez certains candidats ou au détour de quelques programmes électoraux, des bribes de tentations de retour en arrière, de « on est allé trop loin », des tentations contre-révolutionnaires?
Pas vraiment. Alors, ce qu'il y a vraiment d'intéressant, c'est que la seule candidate qui est a priori pour le retour en arrière, qui prenait le retour à la dictature, qui faisait l'éloge du régime de Ben Ali, qui est Habib Moussi, qui a bâti toute sa popularité sur ce discours-là nostalgique pour le passé de Ben Ali, cette candidate-là s'est trouvée obligée pendant la campagne électorale d'adopter un discours différent. Peut-être dans une stratégie de dédiabolisation, et son slogan de campagne est d'ailleurs « démocratie responsable, liberté garantie ». Donc même la seule candidate ouvertement contre-révolutionnaire en Tunisie était obligée d'édulcorer son discours pendant la campagne électorale pour dire qu'il n'y a pas de risque de retour en arrière concernant la démocratie et la révolution.
Dites-nous.
Ce qu'on remarque par contre chez certains candidats, c'est des promesses de modifier la constitution pour remettre en cause le régime politique, c'est-à-dire de revenir vers un régime présidentiel, non plus un régime plutôt parlementaire, comme c'est le cas actuellement. Ça, on le trouve chez plusieurs candidats par contre, qui estiment que voilà, le régime parlementaire a échoué et que c'est ce régime-là, ce choix-là, qui est la cause de certains problèmes institutionnels de gouvernance dans ce pays et que voilà, la Tunisie, le seul régime politique qui convient à la Tunisie est le régime présidentiel.
D'ailleurs, la Tunisie s'est dotée d'une constitution en 2014, mais elle a toujours pas de cour constitutionnelle. Donc en fonction de qui sera élu président ou présidente, sait-on jamais, il y a deux femmes candidates, bon, qui a priori dans les sondages sont pas très hauts, mais quel danger ça peut représenter qu'il n'y ait pas de cour constitutionnelle?
Oui, le fait qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle, d'abord, c'est un problème pour la période qui est passée, parce qu'il y a un certain nombre de projets de loi qui n'ont pas été soumis à la cour constitutionnelle, alors qu'il y avait beaucoup de soupçons d'inconstitutionnalité, parce qu'il y a une instance provisoire, mais qui n'a pas du tout les mêmes garanties de la cour constitutionnelle. Concernant les élections, la cour constitutionnelle n'a pas de rôle particulier. C'est le tribunal administratif, par exemple, qui contrôle les résultats des élections et toutes les décisions que prend l'instance qui gère les élections.
Alors,
Ceci dit, il y a peut-être un problème qui sera causé par l'absence de cette cour constitutionnelle, qui est le cas de Nabil Qaroui.
Alors, ce candidat populiste dont il était question dans le journal de 6h30 et dont on a entendu dans le journal de Clara Lecoq-Réal que c'était un peu le Berlusconi tunisien.
Voilà, et qui est actuellement en prison, qui est arrêté dans une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Et il est premier ou deuxième dans les sondages, en tout cas il est haut dans les sondages, il a ses chances d'être qualifié au second tour, peut-être de gagner des présidentielles, alors qu'il est toujours en prison. Et là, la question se posera, est-ce qu'il pourra bénéficier de l'immunité alors qu'il est prisonnier, ou est-ce qu'il restera prisonnier, donc privé de cette possibilité même de prêter serment et d'exercer son mandat de président de la République. Bon, ceci dit, il n'est pas encore président, il n'est pas encore élu, le premier tour n'a pas encore eu lieu, mais c'est un problème éventuel que seule une cour constitutionnelle pourra justement résoudre.
Et en quelques mots, Madi Elouch, toujours au sujet de Nabil Qaroui, est-ce que sa détention provoque des débats sur sa personnalité, ses agissements, ou sur l'indépendance de la justice en Tunisie? Parce que c'est quand même celui qui était vraiment parti très très haut dans les sondages au tout début de la campagne et qui a été mis sous les barreaux rapidement.
Absolument. Alors, il est clair que Nabil Karoui n'est pas du tout la victime parfaite d'un système qui ne voit en lui que le premier des sondages, qu'un rival politique. C'est-à-dire que des dossiers de corruption existent. Il y a même des enregistrements fouillés qui prouvent que dans sa chaîne télé, dans ses équipes de rédaction, il organise des campagnes de dénigrement contre ses adversaires politiques. Ceci dit, il a travaillé donc très calmement pendant des années et il n'a été arrêté. Et le procès, l'affaire qui le concerne n'a été sérieusement examiné que le jour où il a déclaré son intention d'être
De candidat.
candidat. Voilà.
Mahdi Elouch, est-ce que aujourd'hui, on est en 2019 comme en 2014 dans le cadre d'une campagne qui oppose, pour le dire vite, modernistes d'un côté, et en tout cas ils se surnomment eux-mêmes comme ça, c'est-à-dire on peut dire centristes, et islamistes de l'autre?
Pas vraiment. En tout cas, si on compare avec 2014, la campagne de 2019 est beaucoup moins dominée par cet enjeu ou ce clivage identitaire entre modernistes et islamistes. L'une des raisons est que, après 5 ans de consensus, disons, entre modernistes et islamistes à la tête de l'État, les tensions ont été beaucoup amoindries. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la famille moderniste part éclatée dans ce scrutin. Il y a beaucoup de candidats, ce qui fait que la bataille est plutôt rude entre ces candidats modernistes, entre eux, et non pas entre le candidat moderniste et le candidat islamiste. D'ailleurs, l'une des nouveautés de ces élections est qu'il y a un candidat islamiste, c'est que le parti Ennahda a choisi de présenter un candidat de ses propres rangs, ce qui n'était pas le cas en 2014.
Abdel Fattah Mourou, alors vous dites parti islamiste, eux disent qu'il faut dire maintenant musulman démocrate. Et d'ailleurs, Abdel Fattah Mourou lui-même ne se présente pas comme islamiste, mais comme conservateur. Est-ce qu'il joue sur les mots ou est-ce qu'Ennahda a vraiment opéré un changement depuis 2011, date à laquelle il est de fait sorti de sa clandestinité avec l'avènement de la démocratie?
Six changements il y a, il devait depuis 2014, non pas 2011, parce que les 3 années que Ennahda a passées au pouvoir, c'était bel et bien un parti islamiste. Après, depuis notamment sa défaite aux élections de 2014, il y a certains changements, en tout cas dans l'apparence, dans le discours, dans les visages que présente ce parti-là. Est-ce qu'il a vraiment opéré une transition vers un parti musulman démocrate, comme ils disent ou pas, je pense qu'il est encore tôt pour juger. Ceci dit, il y a certaines avancées, en tout cas dans le discours, ce qui fait justement, ce qui participe à ce climat où il y a moins de tensions identitaires, parce que Narda, justement, n'a plus le même visage que celui de 2011 ou 2012. Après, la candidature, c'est très important de le rappeler, c'est que Narda n'allait pas présenter de candidat de ses propres rangs, parce que Narda sait très bien qu'en Tunisie, elle a de très faibles chances de gagner des élections présidentielles. C'est-à-dire que tant que c'est des élections à 2 tours, n'importe quel candidat islamiste n'a presque aucune chance de gagner un second tour. Le seul d'ailleurs qui a peut-être de petites chances de gagner un second tour, parce qu'il peut quand même rassembler un tout petit peu plus que la base islamiste, est justement Abdel Fattah Mouloud.
Alors, justement, Ennahda mise plutôt sur les législatives. On dit qu'il est en mesure de présenter le plus de candidats dans l'ensemble des circonscriptions de tous les partis tunisiens. Donc, pour l'instant, il se positionne sur la présidentielle, mais en vue des législatives. Est-ce qu'ils sauront encore mobiliser les jeunes? Rien n'est moins sûr, puisque Nabil Karoui vient un peu leur voler la vedette. Au-delà du personnage, Nabil Karoui, il s'adresse quand même aux plus pauvres. Il dit que c'est à lui qu'il reviendra de faire en sorte que l'inflation diminue, que le chômage des jeunes diminue aussi. Est-ce que la crise économique pourrait remettre en cause le processus démocratique en Tunisie? Vous écrivez dans une note pour la Fondation Jean Jaurès avec votre collègue Louis-Simon Boileau, vous écrivez que le mouvement révolutionnaire marchant sur ses deux jambes que sont la démocratie et le progrès social est à l'arrêt.
Certes, l'enjeu socio-économique est peut-être la principale menace de la transition démocratique et clairement un mécontentement social et ce qui fait que justement ça alimente une tentation de vote sanction. Nabil Karoui, par exemple, essaie de profiter de ce mécontentement-là et surtout de sa campagne contre la pauvreté parce que tout son programme est bâti sur une guerre contre la pauvreté. Certains autres candidats populistes aussi essaient de surfer sur cette vague, mais ce qui est sûr, c'est que plutôt qu'un mécontentement de la démocratie, bien sûr qu'il existe un certain sentiment comme ça, mais je dirais qu'il y a surtout un mécontentement contre les partis au pouvoir, ce qui fait qu'aujourd'hui, aucun candidat des partis au pouvoir n'est sûr d'être au second tour.
Voilà, c'est ce qu'on dit en Tunisie, que la possibilité qu'aucun candidat du camp démocratique ne franchisse le premier tour. Donc on verra élection ce dimanche. Merci beaucoup Mahdi Elhaj d'avoir été avec nous en direct depuis Tunis, où il est donc 5h56. Vos travaux pour la Fondation Jean Jaurès avec Louis-Simon Boileau sont à trouver sur Internet et on les met sur le site des Enjeux Internationaux sur franceculture.fr. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.